Est-ce que vous connaissez des personnes dans votre entourage qui sont vraiment centrées sur eux-mêmes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui se mettent toujours en avant? Je connais quelqu'un comme ça. C'est impressionnant. C'est parfois gênant même d'être avec cette personne. On dirait que cette personne que je connais, on dirait qu'elle est vraiment, elle se croit vraiment le centre de l'univers. Elle n'est pas contente si les autres ne la remarquent pas en permanence. Cette personne a fait tout pour amener l'attention vers elle-même. Une fois, on était à table ensemble, et cette personne, devant tout le monde, a fait tout un flanc pour être servie le premier. Et c'est constamment comme ça avec cette personne. Et le pire, c'est que deux ou trois fois par nuit, cette personne me réveille la nuit pour être sûre que je ne l'ai pas oublié. Je parle de mon fils Quentin, qui a 3 mois. Selon Rousseau, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Mais dans mon expérience, quand je vois mon cœur, quand je vois mes enfants, quand je vois mon monde, c'est plutôt l'homme né égoïste et c'est la société qui le rend encore plus. Alors pour un bébé de 3 mois, on appelle ça de l'immaturité. On l'excuse parce qu'il est bébé. Mais pour un adulte de se comporter comme ça, toujours voulu être égoïste, ramener l'attention et toujours vouloir sentir meilleur que les autres. Et c'est l'immaturité. Et même si on le fait constamment, quand on le voit chez les autres, on dit ça c'est l'immaturité. Et malheureusement, nous adultes, nous chrétiens, nous l'Église, nous nous comportons ainsi parfois. En tout cas, c'était le cas des Corinthiens. Et c'est pas bon pour une Église de vivre de cette manière égoïste, centrée sur soi-même. C'est tout le contraire du message chrétien, c'est tout le contraire de la croix, c'est tout le contraire de ce que Jésus nous a montré. Alors ce matin, nous voulons apprendre à vivre l'Église autrement que dans cette immaturité. Je vous invite maintenant à lire chapitre 3 avec moi de cette épître à l'Église de Corinthe, écrite par l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, ne vous marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos, qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs pour le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Alors nous disons que cette lettre est une bonne nouvelle pour une église à problème. Et dans ce chapitre 3, Paul est toujours en train d'aborder le premier problème parmi de nombreux dans cette église. Et c'est le problème des jalousies et des disputes que vous voyez en verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, l'un dit « moi je suis de Paul », l'autre dit « moi je suis d'Apollos ». En fait, c'était quoi ces jalousies, ces disputes? Alors, les Corinthiens, en fait, agissaient comme ces deux gamins qu'on peut voir, entendre à la cour de récréation, qui se disent « mon papa est plus fort que ton papa ». Mon papa peut battre ton papa. Et puis, ils se disputent comme ça. Quand on les entend parler comme ça, on dit c'est ridicule, c'est nul. Mais ces Corinthiens vivaient ça d'une autre manière. Mais c'était, ils faisaient pareil. Ils pensaient mon papa spirituel est plus fort que ton papa spirituel. Mon papa spirituel, Paul, est plus fort que ton papa spirituel, Apollos. Et donc, je suis meilleur que toi. Genre, c'est Apollos qui a prêché lors de mon baptême, donc je suis plus spirituel que toi. Ou l'autre va dire, mais moi j'ai fait les cours découvertes avec l'apôtre Paul. Et là, je suis plus spirituel que toi. Et l'autre va dire, mais moi j'ai appris à prier avec Paul et je termine mes prières de la même façon que Paul, alors je suis plus spirituel que toi. C'est comme ça qu'ils vivaient leur vie d'église. Et cette manière de se réclamer des personnages importants était déjà très répandue à Corinthe. La société faisait ça souvent. Et finalement, on le trouve aussi, notre société pratique un peu la même chose. Vous savez, dans une conversation, on lâche des noms de personnages importants pour impressionner l'autre, pour se sentir meilleur que l'autre. Moi, je connais le frère du cousin de Johnny Hallyday. Je travaille avec lui. L'autre dit, mais moi, je mange au même restaurant que le PDG d'Airbus. Et il m'a serré la main. Moi. Vous voyez, on essaie de se greffer sur la célébrité d'un autre pour se mettre en avant. Mais tout ça, c'est une expression de l'orgueil, c'est une expression de l'égoïsme. Les deux papas, peut-être ils sont meilleurs amis au monde, mais ils ne veulent pas se battre entre eux. Mais c'est parfois les enfants qui essaient de vivre ça pour se croire meilleur. Et Paul dit, tout cela c'est très humain, vous marchez selon l'homme. Verset 3, ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand vous dites ça, verset 4, n'êtes-vous pas des hommes? Et de marcher selon l'homme, c'est pas ce qu'on veut dans l'Église. Maintenant, on n'est plus ces hommes comme dans le monde, on est des chrétiens. Et c'est dans ce chapitre que Paul commence à être assez sévère aux Corinthiens. Il les a encouragés jusqu'à là, mais là, il commence à être sévère, à les reprendre de cette manière de vivre l'Église. Et dans les premiers versets, vous les entendez, ces paroles... Il dit, comme vous venez de vous convertir, je comprends qu'il peut y avoir des réflexes égoïstes, vantards, comme ce qu'on voit partout à Corinthe. Mais maintenant, vous êtes chrétien. En plus, vous vous dites très, 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 très spirituel. Mais quand vous dites ça, vous êtes très charnel, vous êtes très mondain, vous êtes très immature. C'est les versets 1 et 2 et 3 où il dit ça. Alors pour les Corinthiens, ça devait les choquer, parce qu'ils se croyaient très très spirituels, et Paul leur dit, vous êtes en fait, en disant vous êtes très spirituel, vous êtes très charnel. Vous êtes toujours au biberon, vous êtes au lait, vous êtes bébé. Alors, il dit, Paul n'est pas en train d'instituer une nouvelle catégorie de chrétiens, les chrétiens charnels, puis les chrétiens spirituels, et vous choisissez la vie chrétienne que vous voulez. Dans l'absolu, un chrétien charnel n'existe pas. Le chrétien, il a le Saint-Esprit et il est une nouvelle personne, une nouvelle créature. Un chrétien charnel n'existe pas dans l'absolu, tout comme un bébé adulte n'existe pas. Un adulte bébé n'existe pas. Mais des fois, des adultes se comportent comme des bébés. Alors, on leur dit, arrête de faire le gamin, arrête de faire la gamine. C'est une manière de parler et c'est ce que Paul doit leur dire ici. Alors, pour les aider à retrouver une maturité chrétienne, une vie d'église saine, Paul va utiliser trois images de l'Église pour les aider à mieux comprendre ce qu'est l'Église. C'est pour ça que j'ai appelé le message ce matin « L'Église pour les nuls ». On revient un peu à la base de la vie chrétienne, de la vie d'Église, ce qu'est l'Église, pour aider ces Corinthiens qui se comportaient comme des nuls, comme des bébés, à vivre mieux leur foi, l'unité dans l'amour. Alors, les trois images que nous allons voir ce matin, c'est l'Église comme un champ, l'Église comme un édifice et l'Église comme un temple. Ça peut nous aider, nous aussi, à ne pas vivre égoïste, jaloux, orgueilleux, mais humble et rempli d'amour dans une vie d'Église saine. Tout d'abord, voyons l'Église comme un champ. C'est l'image qui domine les versets 6 à 9. Et il le dit carrément en verset 9, « Vous êtes le champ de Dieu ». Vous, l'Église à Corinthe, vous êtes le champ de Dieu. Et dans cette image, les serviteurs, les responsables, les ouvriers, comme Paul et comme Apollos, sont comme des agriculteurs, des ouvriers dans un champ. Et ça, c'est l'image. J'ai planté, verset 6. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et ces versets, je les aime beaucoup. Ils sont très, très importants pour bien vivre l'Église. Parce qu'ils nous donnent une vision ni trop exaltée, ni trop méprisante des responsables d'Église, des services et des ministères dans l'Église. Vous êtes le champ de Dieu, et chacun a sa place dans ce champ, dans le travail, dans l'œuvre de faire porter du fruit. Ce matin, par exemple, au petit-déj, vous avez mangé votre baguette, vous avez bu votre jus d'orange, et certainement vous n'avez pas dit en vous-même, « Ah, je préfère beaucoup celui qui a arrosé les fruits que celui qui a cueilli le blé ou l'orange. » Celui qui a arrosé ces choses est beaucoup plus important, beaucoup plus préférable que celui qui arrose. Non, vous n'y aviez même pas pensé. Vous avez dit merci Seigneur pour ce petit déjeuner. Et voilà, c'est tout. Vous appréciez le produit final sans distinguer trop entre les acteurs de la chaîne de production. Et c'est vrai, quand on y pense, c'est peut-être plus intéressant, c'est plus glorieux dans un sens d'être celui qui cueille le fruit un beau jour d'été que celui qui met le fumier un jour d'hiver, quand il fait froid, quand il pleut. Mais les deux travaillent ensemble, c'est qu'il y ait une fruit, qu'on puisse le cueillir à la fin de la saison, c'est que plusieurs ont travaillé et c'est un travail d'équipe. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Et Paul les invite, les Corinthiens, à vivre l'Église ainsi. Lorsqu'on pense aux responsables, lorsqu'on pense aux services dans l'Église, lorsqu'on pense à différentes générations de pasteurs, l'un n'est pas meilleur que l'autre. C'est ce qu'il dit en verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et ça, c'est beau, de vivre ça. Et cette image du champ nous aide aussi à ne pas mépriser leur travail non plus. On voit bien que les dons et les rôles, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a voulu. Il dit, ce sont les moyens par lesquels vous avez cru, verset 5. Et puis, il dit en verset 8, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, Dieu a voulu qu'il y ait ce travail, Dieu a voulu récompenser ce travail, Dieu a voulu utiliser ce moyen pour faire partir. Donc, les serviteurs sont importants. Il ne faut pas tomber aussi dans l'autre extrême. Ces gens qui disent, nous, on est très spirituels, on fonctionne sans responsable, sans titre, sans moyens, on compte sur Dieu pour tout. Essayez ça cette saison chez vous. Vous ne plantez rien, vous n'arrosez rien, vous ne désherbez rien, vous ne cueillez rien et vous voyez si de manière très spirituelle, une tomate arrive dans votre assiette. Non. Mais quand la tomate arrive dans votre assiette, parce que vous faites toutes ces choses, vous ne dites pas, c'est moi qui ai fait pousser la tomate. Vous dites, c'est Dieu qui a utilisé les moyens, c'est Dieu qui a fait croître. Ça, c'est l'attitude qu'on veut vivre en permanence dans l'Église. Et je trouve cette image très belle pour valoriser les services et les serviteurs dans l'Église et les différents rôles, sans les concurrencer. On a tendance, nous, de dire tel service est plus glorieux, plus important que d'autres. Mais l'arrosage, les semailles, les deux rôles sont importants. Donc, retenez cette image d'une Église comme un champ. Et puis maintenant, Paul enchaîne directement avec une autre image, on change un peu, l'Église comme un édifice. Verset 9, il les enchaîne directement. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et dans les versets suivants, les versets 9 à 15, on n'est plus dans les semailles et l'arrosage, on est dans le bâtiment, l'architecture, la construction. Et là, Paul nous invite à voir l'Église comme un bâtiment que l'on construit, pas un bâtiment physique, mais c'est une image, nous sommes un édifice. Alors, comment cela nous aide à vivre unis, humbles, matures et pas égoïstes et en concurrence les uns avec les autres? Eh bien, nous allons creuser cette image maintenant de l'Église comme un édifice, comme un bâtiment. Et Paul exploite l'image avec plusieurs aspects du bâtiment, déjà le fondement, et après il va parler des matériaux qu'on utilise. Donc, commençons avec le fondement. Il rappelle que dans l'édification de l'Église, le projet de construire l'Église, le fondement, c'est Jésus-Christ. Le fondement, c'est le message de la croix. Le fondement, c'est l'évangile que Paul et Apollos et Pierre et tous les apôtres ont prêché. Ils étaient tous d'accord sur les doctrines de base, sur l'évangile. Et ils ont posé ce fondement de Jésus-Christ crucifié. Et maintenant, le défi pour ces Corinthiens, ça va être de continuer à bâtir sur ce fondement, dans la même lignée de ce fondement. Et justement, cette attitude jalouse, égoïste, qui dit « mon papa spirituel est plus fort que ton papa spirituel », ça, ce n'est pas aligné avec la croix, ce n'est pas aligné avec l'Évangile. Ce n'est pas une attitude cruciforme, si vous voulez. Justement, sur la croix, Jésus était tout sauf égoïste et vantard, et il ne voulait pas impressionner. Sur la croix, il a choisi la position humble et faible, et la position d'amour. Et ça, c'est le fondement. Et ceux qui construisent, ceux qui continuent, ceux qui édifient sur ce fondement, ils ne veulent pas bâtir à côté. Si vous mettez les choses à côté du fondement, il sera bancal. Et donc, cette attitude qu'avaient les Corinthiens était à côté du fondement, à côté de la plaque, parce que ça ne correspondait pas à la croix, à la manière qu'ils ont vu Jésus à la croix. Donc, l'importance de construire sur le fondement. Après, Paul utilise aussi l'image des matériaux, notamment des matériaux solides et surtout résistants au feu par rapport à des matériaux qui le sont plats, qui sont inflammables. Et justement, ces chrétiens immatures étaient plus attirés par l'éloquence, par l'apparence, à vouloir impressionner. Et ils étaient attirés par les méthodes et les attitudes du monde à Corinthe, la culture corinthienne. Mais Paul appelle cette attirance, il appelle ça du bois, du foin, du chaume. C'est la croix de Jésus-Christ. Et c'est ce message qui est plutôt l'or, l'argent et les pierres précieuses. Et nous voulons tous bâtir l'Église, nous voulons participer à l'Église en nous investissant avec des choses durables, des choses qui suivent pas justement la sagesse de ce siècle, mais qui suivent la sagesse de la croix. Alors c'est vrai que ces versets s'appliquent aux responsables, ceux qui sont peut-être impliqués dans le progrès de l'Évangile, dans l'édification de l'Église, mais ces versets s'appliquent aussi à nous tous. Et je vous pose la question maintenant, quelle sera l'œuvre de votre vie? Quelle sera l'œuvre de votre vie? Vous êtes en train de bâtir une œuvre, vous pouvez contribuer à ce projet de Dieu qui va durer éternellement. Mais quelle sera votre contribution? Comment vous allez édifier l'Église de Dieu? Vous savez, l'œuvre de votre vie, l'œuvre de notre vie à tous, va être soumise au feu. Au jugement, en quelque sorte, Paul évoque ce jour qui va révéler toute chose. C'est le jour où Jésus revient, c'est le jour du jugement. Et voilà, l'œuvre de notre vie sera mise à l'épreuve, tôt ou tard. Voilà, les choses, notre vie va comme passer au feu. On a vu dans l'actualité en France que voilà, les bâtiments peuvent passer au feu, les églises, les édifices. Et on a vu justement, c'était le clocher en bois qui a pris feu, ce qui était en pierre est resté, notamment. Et vous savez, j'ai regardé, quasiment tous les anciens bâtiments sont un jour ou un autre passés par le feu. Nos édifices à Toulouse aussi ont connu des incendies. Peut-être c'est il y a 100 ans, il y a 200 ans, où il y a un clocher qui s'est effondré parce que c'était pas bien bâti. Mais tous les anciens bâtiments, on connaît un jour ou un autre l'incendie. C'est même pas quelque chose qui s'est passé dans le vieux monde, c'est encore d'actualité. Quand on fait un contrôle de sécurité, c'est les pompiers qui viennent, parce que ils savent que le risque est toujours là. De la même manière, nos vies, tôt ou tard, vont passer par cet examen, cette épreuve du feu. Qu'est-ce qui va subsister? Et ces versets nous apprennent que ce qui va subsister éternellement, c'est ce que vous avez pour Dieu et pour son Église, dans une motivation humble, une motivation pour la gloire de Christ, pas pour la gloire des hommes. Alors je rappelle que construire une église, édifier cette église, participer à cette construction, c'est pas acheter des indulgences pour construire l'église physique à Rome ou quelque chose comme ça. Ça c'est pas. Mais c'est s'impliquer par amour, par humilité dans la vie de vos frères et sœurs, dans la vie des personnes, pour édifier l'église de Christ. Alors pensez au ministère de cette église. Il y a des belles choses qui se vivent en permanence. Vous êtes impliqués dans le service et c'est beau à voir. Il y a tout ce qui sont impliqués dans Envol, les enfants, la jeunesse. la musique, les cellules. Et c'est l'occasion encore ce matin de dire, est-ce que nous faisons tous le fondement de Jésus-Christ? Est-ce que nous faisons tout selon l'Évangile? Est-ce que nous faisons pour édifier vraiment la foi des uns des autres? Continuez si c'est encore le cas. Et si vous n'avez pas commencé, commencez. Bien sûr, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Il le dit bien, c'est une question ici de récompense, d'honneur et de gloire que nous allons recevoir d'avoir investi nos vies dans l'œuvre de Dieu. L'Église n'est pas un bâtiment physique, il faut le rappeler constamment. Et donc, c'est pas ainsi que Dieu va juger. Nous sommes sauvés par la grâce. Et il y a des personnes qui n'ont jamais compris vraiment l'intérêt d'une vie d'Église et qui passent à côté ou qui construisent mal, qui préfèrent les apparences mondaines humaines. Ces gens-là, leur œuvre sera consumée. Mais dans la mesure qu'ils ont quand même placé leur espoir en Jésus-Christ, ils seront sauvés, mais comme au travers du feu, verset 14. Alors que cela nous aide tous à nous examiner dans notre implication, dans notre service. Et enfin, l'Église comme un temple. Ça a été déjà évoqué pas mal ce matin. C'est une image très très forte. Et finalement, cette image est une précision du deuxième. Il a parlé de l'édifice, mais une sorte d'édifice, c'est le temple. Et c'est certainement ça que Paul a en tête. Combien de bâtiments connaissez-vous où l'on bâtit directement avec de l'or sur le fondement? Il dit au verset 12, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Normalement, on pose le fondement, on met des parpaings, des briques, ensuite on va crépir et à la fin, on va mettre quelques touches de décoration. Même moi, je ne vais pas utiliser l'or ou l'argent. Mais ici, il parle d'un bâtiment où l'on construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Alors, on a rarement vu ça, mais il y a un édifice dans la Bible qui a été grandement construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Il s'agit du temple, en tout cas celui de Salomon, le temple glorieux de l'Ancien Testament qui occupe une place si centrale dans l'histoire juive. Et ce lieu était tellement important, parce que ce lieu était le lieu saint, c'était le lieu où Dieu accordait sa présence. C'était là ils allaient pour rencontrer Dieu. Et dans la pensée d'un juif, voilà, ce lieu saint, ce temple, il y avait rien comme tel. Et ici, donc, c'est étonnant, c'est même choquant que Paul dit, vous êtes le temple. Vous, un petit groupe de chrétiens immatures dans une ville païenne, vous êtes le temple. Plus important que d'autres temples dans le monde entier. Vous voyez, comme Thomas a bien dit ce matin, le temple, c'est plus un bâtiment, c'est plus un lieu fixe. C'est le peuple de Jésus-Christ, comme la femme samaritaine a découvert. Elle-même, ce qui compte, c'est pas adorer dans tel ou tel lieu. Ce qui compte, c'est adorer Dieu en esprit, en vérité. Unis, juifs et samaritains, et tous les peuples de la terre, on n'a pas besoin d'aller dans un lieu géographique fixe qui appartient à une telle culture, mais toutes les cultures du monde, maintenant, peuvent adorer et unis dans l'amour. Parce que Dieu accorde sa présence. Et vous savez, à l'époque, le plus grand crime, c'était de profaner un temple. Je pense à ce roi grec qui a sacrifié un cochon dans le temple juif. C'était pour les juifs, c'était affreux. Ou bien, même dans la vie de Paul, ne serait-ce qu'il a été accusé de mal parler d'un temple, que ce soit le temple de Diane ou le temple à Jérusalem. Il y avait toute une émeute dans la ville. Parce qu'ils étaient tellement attachés à ces lieux saints, à ce temple. On ne touche pas, on n'abîme pas, on ne parle pas mal du temple. Et Paul dit, ça c'est vous. De la même manière, apporter des choses impures, comme des faux enseignements, ou des comportements qui sont tellement contraires à l'Évangile, notamment l'orgueil, des divisions, c'est comme saccager le temple. Et c'est grave. Dieu détruira ceux qui cherchent à détruire son Église, que ce soit de l'extérieur, par des persécutions ouvertes, ou de l'intérieur, par des choses plus insidieuses. Alors c'est vrai que l'orgueil, l'égoïsme, les divisions sont monnaie courante dans notre monde. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on impressionne les autres, c'est comme ça qu'on se sent meilleur que les autres. Mais nous, nous sommes saints, c'est-à-dire nous sommes différents, nous sommes séparés, nous sommes autres, puisque Dieu habite avec nous et en nous. Et nous ne voulons pas nous comporter comme ça. Alors j'espère que ces images nous aident à vivre l'Église. L'Église comme un champ, avec chacun à sa place, chaque ouvrier. L'Église comme un édifice, où on fait attention comment on l'a bâti. Et puis enfin, l'Église comme un temple où on rappelle, c'est la demeure de Dieu dans sa sainteté. Et nous pouvons nous comporter comme ça. Et Paul termine, et moi aussi, avec ces versets à la fin du chapitre, versets 21 à 24. C'est un peu la fin de son argument dans ses premiers problèmes des divisions. Il résume en disant, verset 21, que personne donc mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Vous voyez ce qu'il dit? Parce que les Corinthiens, ils étaient toujours dans cette pensée. Moi, j'appartiens à Paul, donc je suis meilleur que toi. Et moi, je fais partie du camp, du clan d'Apollos, donc je suis meilleur que toi. Mon papa spirituel est plus fort que ton papa spirituel. Et Paul dit, non, c'est pas comme ça. Ne réfléchissez pas. Moi, j'appartiens à Paul. Moi, j'appartiens à Apollos. C'est le contraire. Paul est à vous. Apollos est à vous. On est vos serviteurs. On est à vous. On vous appartient. C'est pas le contraire. Et même, il élargit. Il dit, tout est à vous. Tout votre parcours spirituel, toutes les circonstances, toutes les choses dans cette vie présente, toute votre vie d'église est là pour vous faire arriver, sain et sauf, à destination finale, dans la présence de Dieu. Tout est à vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Voici la solution finale à notre besoin de sentir mieux que d'autres. Si vous êtes à Christ, Christ est à Dieu, ça veut dire que le Père, Dieu le Père, et votre Père aussi. Si vous êtes à Christ, Dieu est votre Père. Alors c'est vrai que ça fait qu'intérieurement on peut dire, oui, mon Père, mon Papa est plus fort que tous les papas du monde entier. Parce que je connais Dieu. Mais vous l'avez dans votre cœur, ça vous donne une sérénité, ça vous donne une paix, ça vous donne une stabilité. Vous n'avez pas constamment besoin de prouver, de se prouver égoïstement aux autres, mais mon Père est plus fort que ton Père. Non, vous connaissez le Dieu de l'univers, il vous aime. Il vous a justifié, il vous a rendu pur et saint. Et maintenant, vous êtes serein, vous êtes bien avec vous-même et avec les autres. Et désormais, tout ce qui nous arrive dans la vie, toutes les personnes que Dieu place dans notre vie, toutes les personnes que Dieu place dans notre église, tous les responsables que Dieu place dans notre parcours, tout ça contribue à nous faire grandir et à nous aider à vivre éternellement pour Dieu dans la joie, dans la reconnaissance. Que nous puissions vivre l'Église comme ça, dans cette humilité, dans cette paix, dans cet amour.